Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la bande dessinée. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Leduo et Boris Spino. Prise de son assurée ce soir par Jean-Richard Dufour. Réalisation Daniel Finot. Et ce soir, Joseph Gosse et Antoine Guillot se font face à notre affiche « Une sœur » de Bastien Vivès chez Casterman, « La fissure » de Guillermo Abril et Carlos Spotorno chez Gallimard et « Les praticiens de l'infernal » volume 2 de Pierre Lapolice chez Cornelius. Vers 21h20, Xavier Martinet nous entendra dans le petit salon pour parler de la sexualité dans la bande dessinée. Il y aura encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des DVD du film « Mystère Jérôme Bosch » de José Luis López Liñares, distribué par Epicentre. Et nous ouvrons cette émission avec le retour en solo de Bastien Vivès, Wonder Kid de la BD française, enfin Wonder Kid qui a quand même maintenant à force 32 ans, dont chaque album est quand même attendu avec fièvre, 6 ans après Paulina, qui nous avait fait pleurer, Antoine Guillot, BD qui a été assez librement adapté au cinéma depuis. Bastien Vivès donc revient avec Une sœur, qui va suivre quelques jours déterminants dans la vie d'Antoine. C'est un hommage, j'imagine. 13 ans, qui part comme chaque été dans une maison, au bord de la mer, en Bretagne, avec ses parents, avec son petit frère Titi. Mais cet été-là, ce ne sera pas comme les autres, puisqu'une amie des parents va venir passer une semaine avec sa fille Hélène, 16 ans. Every night I hope and pray, a dream lover will come my way. Girl to hold in my arms and know the magic of her charms. 'Cause I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Dream lover, where are you? With a love oh so true. And the Une sœur, c'est donc le titre très simple de ce nouvel album de Bastien Vivès. Une sœur, hein, pas ma sœur ou notre sœur, ça c'est le très beau film de Kore-eda. C'est autre chose, notre petite sœur peut-être d'ailleurs chez Kore-eda. Une sœur, Antoine Guillot.
On pourrait même l'appeler la possibilité d'une sœur.
Là ce serait trop explicite.
Parce que le livre commence comme ça par une discussion en voiture où ce jeune Antoine, prénom qui marque un certain attachement à la nouvelle vague, puisque c'est devenu presque un cliché, on appelle quelqu'un Antoine et on se met dans une histoire
Antoine.
Du cinéma
voilà,
qui crée déjà des images. Donc il est dans la voiture avec ses parents, ils partent en vacances et puis là il apprend au détour d'une conversation qu'il aurait pu avoir un grand frère ou une grande sœur, puisque sa mère incidemment lui parle d'une fausse couche qu'elle avait faite
avant sa naissance.
Et c'est presque un film, je le dirais presque volontiers, parce qu'il s'inscrit dans ce qui est le film de vacances, à la fois le film d'adolescence, lui-même parle de ses références au cinéma de Diane Curis des années 80, les Diabolomantes et autres, La Baule les Pins, où c'est l'espace où va pouvoir se découvrir le désir, se découvrir un passage aussi, alors là c'est le passage de la toute jeune adolescence, hein, puisque ce garçon a 13 ans arrive inopinément une personne dans la nuit, comme ça, très belle apparition nocturne, avec d'ailleurs un très beau moment lié à la bande dessinée qui passe vraiment qui figure le passage à l'adolescence, puisqu'il est question d'argent trouvé caché dans un astérix qu'on va aller chercher la nuit dans la bibliothèque, et puis quand le héros découvre cette jeune fille qui dort dans le lit en face, qui est apparue comme ça, très mystérieusement, presque magiquement, dans la nuit, il va ranger ce livre de bande dessinée. On n'est plus là dans l'âge de l'enfance, maintenant on va passer à autre chose, et cette autre chose, c'est presque un livre qui raconte les conditions de sa fabrication, parce qu'il va être question de comment capter cette présence, comment la dessiner. C'est un petit garçon qui dessine, et on sent, sans que ce soit forcément une histoire autobiographique, tout ce que Bastien Vivès a pu mettre de lui dedans, ne serait-ce que parce qu'il y a toujours cette figure paternelle barbue qui signe tous ses livres, et il va essayer à la fois de retrouver des états émotionnels et de réussir à figurer cette jeune fille. Par exemple, il faut attendre très longtemps avant qu'on voit ses yeux. Mmh. Ses yeux n'apparaissent qu'à la page 46.
Il faut dire qu'on est chez Bastien Vivès, qui aussi est souvent...
Qui est souvent assez elliptique dans sa manière de représenter les visages, mais il représente quand même le fait qu'on ne voit pas ses yeux. C'est-à-dire qu'au lieu de ces moments où, effectivement, il ne dessine que ce qui est utile pour faire apparaître l'émotion, il va la représenter les yeux baissés, en train de regarder son portable, derrière des lunettes de soleil. Et le moment, c'est quand est-ce qu'il va être regardé, tout simplement, parce que lui, c'est une figure de regardeur, vraiment, pour ne pas dire de voyeur. En tout cas, il y a une pulsion, comme ça, de regarder cette fille, de la découper presque sur ses différents aspects. Et le livre va tendre vers ça, sur la représentation possible ou pas de cette, je dirais pas de cet amour d'ailleurs, parce que c'est pas vraiment une histoire d'amour, c'est une vraie histoire de désir, ce qui est assez rarement figuré, je trouve. Lui, il est très conscient qu'il est trop petit, elle a 16 ans, il en a 13, si amour il doit y avoir pour cette jeune fille, ça sera avec des gens de son âge, mais il se passe quelque chose de l'ordre du désir que je n'avais jamais vu représenté comme ça, et surtout avec des personnes de cet âge-là dans une bande dessinée.
Elle s'appelle Hélène. Joseph Gosne.
D'abord, je voudrais signaler que c'est une bande dessinée en noir et blanc. Que, effectivement, elle s'inscrit dans cette idée de film de vacances. Moi, ça m'a fait penser au Conte d'été d'Éric Rohmer, par exemple, mais effectivement, à la Baule, etc. Mais je trouve que le fait de la faire en noir et blanc, ça marque quelque chose d'un peu plus profondément noir, justement, ou triste. Ça signale le fait que ce passage qui se fait, parce qu'il s'agit vraiment là d'un passage, que ce désir dont parlait Antoine signifie en fait un passage vers un âge un peu différent pour ce jeune garçon, que ça se passe pas forcément de manière très très heureuse dans le fond. Et cela, je l'ai aussi perçu en refermant ce livre dont j'avais oublié le titre. Et pour moi, dans mon esprit, à la fin de l'histoire, le livre ça s'appelait Une fille. Et en fait, c'est une sœur. Mmh. Et c'est de là aussi d'où vient, je crois, toute la tension, c'est-à-dire la tension entre ce que disait Antoine, c'est-à-dire la représentation d'une figure qui pourrait être la figure de la sœur de ces deux garçons, mais aussi en même temps la représentation du désir et de la découverte du corps de cette fille, et là aussi de la découverte de la sexualité et du propre corps du garçon. Les plus belles scènes, celles qui sont les plus fortes à mon sens, sont vraiment celles que Vivès dessine entre les deux quand ils sont seuls. Notamment cette scène sous la douche où elle le masturbe, où il y a quelque chose comme ça d'assez étonnant, qui n'est ni de l'érotisme, ni de la pornographie, ni même du voyeurisme, mais simplement quelque chose dont on sent qu'il a été vécu, ou en tout cas qui relève vraiment de l'authenticité et du réalisme. Et de ce point de vue-là, je le trouve très très fort. Je le trouve un tout petit peu moins fort, en tout cas moi, il y a une ou deux choses dans la construction qui m'ont un peu gêné, notamment dans l'amorce de l'histoire. J'ai l'impression qu'il met une ou deux pistes qu'il ne suit pas, notamment dans cette histoire de Rix un peu au début avec d'autres garçons, et aussi dans la fin qui me paraît un tout petit peu trop arrêtée ou apprêtée peut-être. Mais sinon, dans l'ensemble, dans la relation qui s'établit entre les deux, mais aussi entre les trois, parce qu'il y a aussi ce petit frère, Titi, qui est là. Je trouve ça vraiment remarquable, et d'autant plus remarquable que Vivès signale très souvent l'absence des parents qui sont là, mais les personnages disent souvent ils ne sont pas là, ils sont bourrés, ils ne vont pas rentrer, etc. Et c'est vraiment cette construction d'un monde d'enfants, d'un monde d'adolescents à part, vraiment parallèle à la vie des adultes, qui ne se montre pas, qui est vraiment dans le, dans le, dans, dans la non-représentation aux yeux des autres, que Vives parvient justement à montrer. Et ça m'a passionné. En cela, je trouve que c'est un très très bon livre qui, malgré les quelques petites choses qui moi m'ont gêné, qui pour moi reprend vraiment le Vives que j'aimais de l'époque de ses premiers livres, c'est-à-dire le goût du chlore, où il parvenait à vraiment représenter quelque chose de très tenu, de quasiment obsessionnel.
Bah, c'est vrai qu'on le retrouve auteur et dessinateur. Moi, je trouve que c'est un garçon qui a quand même beaucoup de qualités, parce que moi, j'aime beaucoup d'abord son dessin, son trait. Je trouve qu'il est aussi fin et raffiné que quand même la subtilité des émotions qui sont traitées dans ce livre aussi. Sur le sens de la narration, alors avec ce bémol, j'avais un peu le même sentiment, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du danger qui apparaît dans les premières pages, qui est une piste effectivement délaissée, puisque voilà, ils font une rencontre quand Hélène n'est pas encore arrivée, Antoine et Titi, avec une bande de jeunes même très très agressif et très menaçant, enfin physiquement, il y a un couteau qui est là quand même, c'est pas tout à fait rien, surtout quand on a cet âge-là. Et du coup, quand il y a d'autres figures masculines plus âgées qui interviennent, on attend quelque chose, et là, c'est un peu un monde un peu enchanté. Donc, il y a une sorte de décalage ou de déphasage par rapport à l'ambiance peut-être de départ. Pour autant, là, vous tournez quelques-unes des pages l'un et l'autre, et c'est vrai qu'il y a une finesse de la narration par le cadre, parce que la focale, le rapport d'échelle aussi, qui est quand même très impressionnant dans la fluidité, et encore une fois dans une forme de délicatesse, alors que l'histoire effectivement est tout sauf rose de ce livre-là, Antoine Guillon.
Mais précisément, elle ne l'est pas parce qu'il y a cette ambiance de danger. En permanence, le livre est encadré par deux morts, régulièrement, quand il sort de cette petite alcôve qui est celle de la chambre et qui est celle de cet espace, justement, un peu de l'inceste jeu découverte, tout semble un peu dangereux à l'extérieur. C'est-à-dire, le monde des grands, et c'est encore une fois, c'est vu par un gamin de 13 ans qui voit les ados de 16, 18, 20 ans comme un espace de violence, un espace de survirilité à laquelle il ne se sent pas du tout appartenir. D'ailleurs, très souvent, on a des contre-champs sur son visage un peu poupin. À ce moment-là, il est renvoyé sans arrêt à l'enfant qu'il est, alors qu'il est en train de découvrir quelque chose qui le fait passer à un autre monde. Et c'est un endroit où on se bat, c'est un endroit où on se lance des défis absurdes, et c'est un endroit. Donc, très clairement, il sent à chaque fois qu'il, non seulement qu'il n'y appartient pas, mais qu'il ne veut pas, qu'il n'est pas prêt à y appartenir, parce que c'est un monde dangereux. Et c'est ce qui fait qu'on n'est pas dans ce monde enchanté de c'est les vacances, on se découvre, et puis à la fin, brutalement, arriverait classiquement le récit de la séparation. La séparation et la fin de cette histoire est inscrite dès le début, en fait, et ça rend d'autant plus précieux les moments qui se passent, parce qu'ils sont comme arrachés à une destinée qui devrait leur tomber dessus. Donc, effectivement, avec cette manière d'être presque éthéré dans le dessin et de se focaliser, mais parce qu'à chaque fois, c'est comme s'il nous dirigeait le regard, on est presque dans une abstraction qui est celle du pur sentiment, il arrive à donner ce côté à la fois léger mais fatal en même temps. Ça, c'est très très rare.
Joseph ?
Oui, je le trouve surtout très fort aussi dans la représentation de l'intime, donc, comme on le disait tout à l'heure, mais surtout de l'ennui, c'est-à-dire de l'ennui de ces moments-là, notamment ce moment où ils font un puzzle qui prend du temps. C'est quand même aussi sa façon à lui de représenter ces moments un peu longs, un peu lents. Je trouve très 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 fort dans ça. C'est peut-être pour ça que
oui, le reste qui passe.
Il y passe, oui, on sent le temps qui passe, il décortique les choses, il arrive vraiment, les cas sont, il arrive à très minutieusement faire ça. C'est vrai que je m'attendais à davantage de représentation de la violence, mais c'est sans doute que son projet l'a mené vers autre chose. Effectivement, cette tension entre l'ennui et la montée du désir, et vraiment ça, c'est vraiment ça qui tient toute l'histoire entre les deux et le livre.
Antoine Guillaume.
Et la figure du puzzle, je pense, c'est là aussi encore une figure métaphorique de la façon dont est construite cette image, c'est de la construire sans regarder le modèle, de mettre des pièces, de voir où elle va mener, et certainement à des moments, dans des directions un peu inattendues par rapport à ce qu'on pourrait, ce que pourrait nous laisser croire le début. Donc c'est assez beau, je trouve, de voir une histoire se construire sous nos yeux réellement, et de ressentir à ce point ce que ressentent les personnages, justement parce que effectivement la représentation de la sexualité est assez inédite. On ni dans la pudeur, oui. Ni dans le dans l'obscénité ou dans la volonté d'exciter, etc.
Mais dans l'explicite.
C'est dans l'explicite et à la fois la gêne, ce qui est un peu, ouais. Ce qu'il peut y avoir de ridicule et d'embarrassant d'avoir une érection sous son short non contrôlé devant une jeune fille et des moments de grâce tout d'un coup qui arrivent. C'est un livre qui nous transporte dans ces états-là, dans ces états d'émotion.
Il ne pourra pas être adapté tel quel au cinéma, celui-là.
Malheureusement, si c'est le cas, d'abord, il y aura des grands problèmes, effectivement, sans doute de censure. Et puis, il faudrait que quelqu'un trahisse le livre, parce que le problème de l'adaptation de Paulina, c'est qu'ils l'ont... Ils auraient dû en faire encore plus autre chose pour que ce soit réellement quelque chose d'intéressant. Et puis, il aurait fallu savoir filmer la danse comme Bastien Vivès savait la dessiner.
C'est compliqué. Joseph Gosse.
Et en plus, on sent bien que le livre est lui-même nourri de plusieurs choses. Il y a les films dont on a parlé, mais aussi sans doute les bandes dessinées assez classiques où on voit des jeunes garçons, la patrouille des castors par exemple en vacances au bord de la plage, etc. Donc c'est vraiment nourri de plein de choses, mais c'est vraiment c'est Vivès qui y met c'est autre chose et on voit mal comment ça pourrait être différent, comment ça pourrait être adapté.
Ben, c'est pour ça que c'est là la grande qualité, c'est une bande dessinée.
C'est un objet de pure bande dessinée. Oui.
Bon, on se retrouve là-dessus, sur beaucoup de choses concernant ce livre « Une sœur » de Bastien Vivès, qui sort donc chez Casterman.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
À suivre dans la dispute, Carlos Potorno, Guillermo Abril et Pierre Lapolis. Tout d'abord, nous suivons Xavier Martinet dans le petit salon. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Sexe et BD ce soir au programme.
Eh oui, on va dire des nouvelles manières de représenter le désir ou l'amour. En tout
cas, je dis pas pareil, moi. Sexe et BD, moi.
Sexe et BD, eh ben, c'est une des questions. En tout cas, c'était une des entrées.
C'est une des entrées, je vous en prie.
Possible, en tout cas, d'un article d'Actua BD assez récent, mais ce n'est pas le seul, qui lui se référait à deux auteurs femmes aujourd'hui bien inscrites dans le paysage. Ce sont Si, une auteure issue du strip de la presse en ligne sur Mademoiselle notamment, et qui publiait son premier album, Le vrai sexe de la vie, fin novembre, un album de 224 pages qui alterne les strips, les encarts didactiques, dits point Q, et des séquences sexuelles muettes, dit le journaliste, qui apportent une parenthèse esthétique à l'album. Le deuxième de ces albums est City and Gender, de Julie Marot, dont la BD, vous la connaissez sans doute, Le bleu est une couleur chaude, en 2011, a inspiré le film La vie d'Adèle. Et cette fois, City and Gender est une succession de scénettes de sexualité crue. Mais si l'aspect sexuel est très bien traité, continue Actua BD, il n'est pas l'élément central de ces planches, non, c'est plutôt l'enjeu, c'est la pression sociale et mentale, disons. Dans ces deux albums, on est assez loin de la manifestation caricaturale de la puissance sexuelle. Au contraire, écrit Actua BD chez Si, les échecs sont mis en avant, des pucelages compliqués et des bandages en série au programme. Concernant le dessin, là encore sur combini.fr, Bérénice Rebuffat constate, concernant Julie Marot, les images sont explicites, mais il n'y a aucune vulgarité, l'artiste développe une esthétique qui lui est propre en ajoutant des dessins plus flous au crayon. En tout cas, ces productions, c'est ça qui est important, s'inscrivent dans une double tendance. À la fois, l'album unique dont vous parliez a franchi de certains codes et puis l'intérêt pour une forme de sexualité plus subtile que la pornographie de divertissement, notamment de la part de femmes scénaristes, souvent aussi dessinatrices, sans fausse pudeur, sans vulgarité et avec une grande humanité, continue le journaliste. Elles entendent des relations sexuelles vécues ou peu glorieuses. Ce sont des pans entiers de notre quotidien, trop souvent tue dans des œuvres de fiction. D'ailleurs, Si travaille à partir de témoignages. Esthétiquement, j'en ai dit un mot, vous en parliez aussi à propos de Bastien Vivès, mais ces bandes dessinées à la fois crues donc, et sentimentales dans le scénario sont souvent aussi, on pourrait dire, entre le fantasme et le pur documentaire dans le dessin. Les personnages peuvent être quasi schématiques chez Si, par exemple, beaucoup plus expressifs chez Julie Marot ou chez Bastien Vivès dans Une sœur. Je le cite d'ailleurs, « Je ne voulais pas être dans le côté docu, le réalisateur réalisme à tout prix, ce n'est pas quelque chose que je recherche. Je préfère vraiment que ce soit crédible plutôt que réaliste, disait Bastien Vivès à Vincent Brunner dans Slate. Slate qui analyse, c'est un album subtil et léger qui tient plus, effectivement, vous le disiez Antoine, d'une version contemporaine des films de Diane Kouris que de Larry Clarke. Le résultat, en tout cas, c'est Jean-Christophe Augier qui le disait sur France Info récemment, une ou deux scènes de sexe explicites qui n'ont du coup rien de choquant, d'où l'aspect aussi peut-être de récits d'initiation, voire de fables, souvent de ces bandes dessinées. Les histoires courtes et les scénettes se multiplient. C'est donc une diversification du potentiel narratif, mais il y a aussi un peu de tout, parfois du plus sombre, comme La nuit mange le jour, cru et radical, cet album, dit Jean-Christophe Augier. Il poursuit, c'est l'exploration des faces sombres de la psyché, de l'homosexualité masculine. Effectivement, c'est un dessin plus réaliste et comme souvent dans ces cas-là, en noir et blanc. Le spectre, d'ailleurs, de ces dernières années est beaucoup plus large. Les éditeurs ont lancé des collections dédiées depuis environ 10 ans, comme BDQ en 2010 chez les Requins Marteaux, notamment, avec des titres là comme Beat Fighter ou Les Melons de la Colère. Là, c'est un album de Bastien Vivès qu'il a lui-même qualifié d'exutoire. Là, ça va de la pornographie délicate de Comtesse, d'Aude Picot, à un univers plutôt débridé et loufoque, disons, de cartoons hypersexualisés et volontairement grossiers qu'on retrouve dans Teddy Beat ou bien Plan Plan Cucu, bande dessinée d'Anouk Ricard que vous connaissez sans doute parce que c'est elle qui a fait Coucou Bouson. C'est donc l'ère de la BD 100% sexualité mais zéro culpabilité, comme le dit Bérénice Rebuffat dans Combini. Mais la formule est donc trop simple pour couvrir tout le paysage de la sexualité dessinée aujourd'hui. Dans le classement des 20 meilleures ventes du genre à la FNAC dont je pourrais vous reparler, les classiques d'ailleurs comme Le Déclic de Manara ou bien Druna sont toujours présents. Pas moins en tout cas que ces albums. Cette nouvelle bande dessinée X joue sur les codes de la pornographie parfois, mais sur le mode de l'humour souvent, du roman ou du documentaire. Alors la nouvelle BD érotique se veut bandante et stylée, comme disait Aurélie Champagne dans le Nouvel Obs en 2012. Et la seule question que je pourrais vous poser à partir de là, c'est la pornographie dessinée de divertissement n'a-t-elle plus d'avenir?
Ah, c'est la question. Alors, Antoine Guillot, début de réponse.
A-t-elle encore un avenir, diantre? Moi, je retiens surtout de ce que vous avez dit à l'instant, que chaque fois qu'on veut dire du bien d'une bande dessinée où il y a du sexe, on va dire, mais regardez, c'est sans vulgarité, il n'y a aucune vulgarité. Moi, c'est plutôt ce qui m'intéresse à creuser. C'est-à-dire que tant qu'à parler de sexualité, allons-y franchement, c'est ce que fait très bien la collection BDQ des Requins Marteaux, parce qu'ils reprennent le principe des pockets de gare pornographiques des années 70, type Elvie France, qui n'existe plus du tout, pour le pousser parfois assez loin, d'ailleurs artistiquement parlant, dans quelque chose de soit de très drôle, de complètement délirant, soit Les Melons de la Colère, c'est une œuvre assez poignante à y regarder. C'est un drame familial de gens disproportionnés sexuellement et qui en souffrent énormément. On atteint des choses assez étonnantes. Après, toutes ces bandes dessinées qui veulent représenter la vraie sexualité des gens s'inscrivent dans un courant qui existe quand même depuis très très longtemps, notamment aux États-Unis avec les bandes dessinées de Joe Matt par exemple d'un côté, ou Omaha the Cat Dancer de l'autre, qui était du feuilleton, du soap opéra avec des scènes sexuelles. Donc on réinvente pas grand chose. J'ai l'impression que ça s'inscrit plus dans un courant qu'on retrouve dans la littérature young adults, etc., où maintenant on peut plus faire des histoires de romance, il faut faire des histoires de romance avec sexualité. Donc on a maintenant les histoires de filles, les blogs de filles qui vont raconter la sexualité. Après, tout dépend de la qualité. Moi, le livre de Julie Marot, je dois avouer que ça m'est tombé des mains, parce que c'est alors là, c'est tout le contraire de Bastien Vivès dans la représentation des corps. Il y a quelque chose d'extrêmement pesant qui marche pas du tout. Mais on trouve dans ces nouvelles collections, il y a aussi la collection Erotics chez Delcourt qui sort des choses intéressantes. Je peux en citer deux qui viennent de sortir. La réédition du livre de Gilbert Hernandez, Jardin d'Éden, un classique américain justement, qui donne une version très pornographique de la Bible, qui était faite à l'époque pour un peu énerver les puritains américains. Ça marchait très bien, c'est assez rigolo à lire, même si c'est un peu raide, c'est juste dans le dessin. Et ce livre que j'ai trouvé très charmant, qui s'appelle Heidi au printemps, d'une autrice, précisément, qui s'appelle Marie Spénal, et qui raconte l'éveil à la sexualité d'Heidi après la fin du livre, et découvrant que voilà, perdre sa virginité avec un jeune garçon, Peter le berger en l'occurrence, violence n'est pas forcément épanouissant. Et c'est tout à fait joli, tout à fait délicat, sans aucune vulgarité, même si sexuellement c'est souvent assez explicite. Donc c'est un territoire après qui est intéressant quand on donne une sexualité à des personnages qu'on construit réellement. C'est de dire, regardez, on va parler de la sexualité d'aujourd'hui, c'est souvent très ennuyeux, je trouve. C'est plus intéressant de développer un personnage qui a par ailleurs une vie sexuelle qu'on peut montrer comme elle se fait.
Bien, après cette longue analyse d'Antoine Guillot, Joseph Gosne.
Je crois que la représentation de la sexualité dans le monde dessiné est partie d'un moment assez fort qui était le moment dans les années 60 de l'underground en fait, et où depuis à chaque fois la sexualité ou sa représentation sert à marquer une époque qui passe. Donc au départ, c'est effectivement Crumb, mais c'est aussi d'autres auteurs beaucoup moins connus qui l'utilisent pour s'exprimer autrement et créer d'autres façons de faire et de dessiner. Puis ça passe dans un mainstream beaucoup plus global, effectivement avec le succès d'un livre comme Le Déclic dans les années 80. Et à partir de là, se pose la question de qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ces histoires de cul, finalement, qui, d'un côté, étaient réservées au rayon, justement, érotique des librairies, avec une production, que ce soit Elvie France dans les kiosques, ou des productions, notamment en France, de Georges Lévis, si je me souviens bien, où il y avait une production vraiment très, 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 très forte dans les années 70-80. Et tout ça, j'ai l'impression, a été repris dans les années 90 et 2000 par la bande dessinée indépendante qui a dit oui, on peut représenter le sexe, mais de manière beaucoup plus intimiste et s'en servir comme à peu près toutes les autres thématiques qui nous intéressent. Et puis c'est arrivé, j'ai l'impression, à une sorte d'épuisement et que depuis ça repart. Dans les années récentes, sur tout à fait autre chose, qui est le sexe comme territoire d'expérimentation et de recherche un peu outré. Effectivement, dans la collection que vous citiez, Requin Marteau, il y a vraiment de ça. Les livres sont assez expérimentaux en fait. Et je pense surtout à un auteur américain récent que j'aime beaucoup, qui s'appelle Benjamin Mara, dont un livre a été édité, je crois, à Requin Marteau d'ailleurs, en France. Qui est vraiment dans l'outrance, c'est-à-dire dans la représentation de personnages dont la sexualité fait partie du quotidien, mais d'un quotidien très violent. C'est un personnage un peu, c'est une sorte de James Bond moderne qui est à la fois en train de tuer, de baiser, pardonnez-moi l'expression, à gauche, à droite, que ce soit homme ou femme d'ailleurs. Donc on est beaucoup dans cette outrance-là qui sert à raconter des histoires de manière sans doute plus dynamique, plus étrange, peut-être aussi plus vulgaire. Et récemment, dans la bande dessinée, la vulgarité et le mauvais goût, parce qu'il y a aussi ça, comme le disait Antoine, sont devenus des champs à explorer, parce que tout le reste est quand même beaucoup passager.
Oui, parce que moi qui grandis dans les années 70 avec des parents qui étaient abonnés à Actuel, effectivement, la BD sexuelle, il y en avait quand même un sacré rayon, et ça faisait partie d'une autre façon aussi de raconter les histoires. Il y avait quand même beaucoup d'obsédés sexuels très avancés, mais ça a donné aussi, enfin, c'est les Paulette de Wolinski, enfin, toutes ces BD-là qui ne datent pas d'hier, et qui justement faisaient, non pas le pari, mais qui affichaient la vulgarité comme principe aussi narratif, et qui s'offusquait pas de montrer, je vais pas dire, de montrer ce qu'il y avait à montrer, voilà, en mettant les deux pieds dans le plat. Xavier Martinet.
Oui, je voulais vous parler de ce classement des ventes, mais peut-être avant ça, ce que vous disiez, Joseph Gosne. Et effectivement, il y avait cette manière, peut-être, et qu'on retrouve aujourd'hui, d'aller de plus en plus dans l'outrance en y réfléchissant. Il y a une sorte de bande dessinée, disons érotique ou pornographique, qu'on ne retrouve plus, j'ai l'impression aujourd'hui, et qui était un grand classique. C'était les pastiches, qui n'étaient pas faits par les auteurs eux-mêmes, quoique parfois on voit. Par exemple, Pierre Serron, qui a fait Les Petits Hommes, a aussi fait Les Petites Femmes, qu'on retrouve toujours en bonne place dans les classements de vente. Mais c'est vrai que c'était une manière aussi de pouvoir outrer à la fois le dessin, de détourner des codes, de trouver des histoires qui se référaient un peu à une sorte de classicisme, mais en même temps, effectivement, de pouvoir faire des BD vulgaires, quoi. Mais on retrouve plus ça aujourd'hui.
Il y a eu des Tintin pris à pic, il y en a eu un certain nombre.
Oui, mais ça, c'est pareil, on le retrouve dans l'histoire de la bande dessinée dès les années 30, avec les Tijuana Bibles, qui détournaient les personnages de bande dessinée ou du cinéma. Dans des versions très pornographiques. Après, c'est devenu un peu un système dans les années 80, notamment chez Glénat, quand il faisait Circus, qui allait aussi assez loin dans les dans une routine presque pornographique, qu'on retrouve d'ailleurs maintenant dans la bande dessinée d'aventure où régulièrement il y a le repos du guerrier avec une femme sublime qui, si possible, juste avant a eu une scène lesbienne pour émoustiller. Et là, c'est devenu une tarte à la crème monstrueusement débile de la bande dessinée générale. Et à l'époque, en tout cas dans les années 80, à la chaîne, il y avait des pastiches comme ça. Il y avait même une série qui s'appelait Pastiche chez Glénat, mais alors, ne ressortez pas le pauvre Pierre Seron qui vient de décéder de sa médiocrité à l'époque quand il faisait Les Petites Femmes. C'était quand même
Ce qui est intéressant, c'est le passage récent finalement d'une représentation qui part quand même de codes très hétérosexuels, très, très forts comme ça, à des choses beaucoup, beaucoup plus floues, à des histoires de sexualité racontée par des filles, des histoires qui mêlent aussi l'homosexualité, etc. etc. Et c'est ce flou-là qui est intéressant.
Et avec cette manière, peut-être contrairement à Manara, et c'est pour ça que c'est resté un classique, le déclic, cette manière d'intimiser effectivement la sexualité et non plus de la représenter, d'extérioriser complètement, comme c'est le cas dans Manara, avec cette petite boîte qui joue le rôle d'interrupteur de désir justement et qui le fait surgir en pleine société, dans un magasin, au restaurant, ou sais-je encore.
Manara. Ben oui.
Ce qui était intéressant chez Manara aussi, c'est le flou que lui-même entretenait sur la boîte et sur le pouvoir de la femme.
Et ça,
on le retrouve peu finalement.
Antoine, Guillaume, dernier mot.
Une autre dessinée, une autre tendance qui va un peu avec ce que vous avez décrit, c'est la bande dessinée éducative, c'est-à-dire qui essaye de prendre un peu d'apprendre quelque chose à ses lecteurs qui dépasse ce qu'ils découvrent très facilement. On le voit d'ailleurs aussi dans le livre de Bastien Vivès sur les téléphones portables concernant la pornographie. Et il y a une série qui marche très très fort au Japon et en France aussi, qui s'appelle Step Up Love Story et qui est réellement un manuel d'éducation sexuelle à l'usage des adolescents, très explicite, autant que les Japonais puissent l'être avec les codes de censure, mais qui rend beaucoup de services, apparemment.
Bon, voilà le conseil d'Antoine Guillon pour clore ce petit salon. Le deuxième livre à l'affiche de cette dispute BD n'est pas une bande dessinée, mais un ouvrage très original tant sur le fond que sur la forme, La Fissure, co-signé par Carlos Potorno et Guillermo Abril. C'est le fruit d'une commande au départ de la rédactrice en chef du supplément dominical du journal El País, suite au drame de Lampedusa en octobre 2013, quand 366 migrants sont morts noyés au large de cette île. Elle a demandé donc, cette rédactrice en chef, au photoreporter Carlos Potorno, lauréat du World Press Photo en 2002, et à Guillermo Abril, grand reporter, d'aller faire un reportage sur quelques-unes des frontières de l'Union européenne. Ils ont largement dépassé la commande. Ils ont sillonné l'Europe pendant 3 ans, amassant 25 000 clichés et 15 carnets de notes à partir desquels ils ont construit La Fissure. Parler de La Fissure, Joseph Gost, il faut commencer par expliquer à nos auditrices et nos auditeurs à quoi ressemble ce livre et quelle est sa forme précisément.
Alors, sa forme pourrait être celle d'une bande dessinée, puisqu'il y a des cases avec des images qui se succèdent, il y a des séquences. Sauf que dans ces cases, ce ne sont pas des dessins, mais ce sont des photos. Des photos dont les teintes, les couleurs sont retravaillées. Mais il s'agit bien d'une histoire en images, construite comme une bande dessinée, mais qui n'est pas un roman photo. Je le précise parce que c'est la première chose qu'on pourrait croire. Ce n'est pas un roman photo. Avec chaque, dire qu'il n'y a pas de personnages qui se parlent, il n'y a pas de les séquences ne sont pas construites comme ça, mais il y a tout de même des mots qui sont placés là, qui sont les mots du reportage en fait. Puisque c'est un vrai travail en commun entre un photoreporter et un journaliste qui raconte ce qu'ils voient lors de leur voyage aux frontières de l'Europe. Au départ, moi j'avais l'impression, en commençant le livre, avant de l'avoir terminé, avant même d'être arrivé dans son cœur, que c'était vraiment un livre sur les migrants. D'où aussi la chanson qu'on a entendue, Immigrant Song. Mais petit à petit, ce qui se révèle, c'est que c'est un vrai livre sur l'Europe. C'est même un très grand livre sur l'Europe, je dois dire. Moi, ça m'a beaucoup touché. C'est-à-dire que c'est un livre qui est très très stimulant, à la fois d'un point de vue de l'actualité, parce qu'il prend en charge vraiment toutes ces questions sur les fractures récentes de l'Europe, sur le désir d'y accéder, d'accéder à l'Europe, et en même temps la façon dont l'Europe se disloque. C'est aussi un livre très stimulant pour ceux qui aiment lire la bande dessinée, parce que d'un coup on se pose beaucoup de questions. Comment est-ce que ces photos, ces images agissent sur la lecture à la place de dessin, et à mon sens elles agissent de manière assez forte. C'est-à-dire que très souvent dans une bande dessinée on se sent porté par le dessin, alors que là il faut au contraire vraiment lire le texte, s'arrêter à chaque image et essayer d'entrapercevoir comment ces images-là sont construites les unes par rapport aux autres, comment chaque chapitre, puisque il y a aussi une division en chapitres qui correspondent chacun à un lieu de l'Europe, comment tout ça va de l'un vers l'autre. Et il y a aussi une stimulation beaucoup plus esthétique finalement, puisque la construction ce n'est pas uniquement la construction qu'on pourrait trouver dans un magazine où il y aurait uniquement un reportage illustré par des photos, mais il y a par exemple des pages où les constructions sont juste splendides entre les, par exemple il y a des pages où les couleurs se répondent, il y a des pages, il y a deux doubles pages où ce sont uniquement des photos de mer. Et ces deux doubles pages disent beaucoup sur le livre, elles disent aussi beaucoup sur un autre grand thème du livre qui est l'impossibilité de représenter, l'impossibilité de prendre en photo. On lit beaucoup ça dans le livre, c'est-à-dire est-ce qu'on peut prendre ça en photo, est-ce qu'on le fait clandestinement, etc. Et à un moment, ce que ces reporters s'entendent dire, c'est vous pouvez photographier la mer. Et effectivement, il y a deux grandes pages où on voit cette mer photographiée, et ça veut tout dire. Et à un moment, on ne sait plus. Moi, quand je regarde ces deux pages-là, je ne sais pas si c'est de la photographie, si c'est du dessin. Je vois juste cet océan, cette mer plutôt irréelle, où on sent vraiment le désarroi de ceux qui la photographient, de ceux qui y sont.
Antoine Guillot, sur la fissure.
Alors, le travail graphique fait aussi qu'il y a beaucoup de grains. Ils ont créé du grain et les couleurs sont un peu passées. Il y a le sentiment étrange de trouver un vieux livre. C'est comme si on trouvait dans 50 ans un livre qui nous racontait le moment où l'Europe a basculé. Alors, on ne sait pas vers quoi elle va basculer, mais on sent qu'il y a un énorme risque que la fissure devienne un gouffre et qui va engouffrer toute idée européenne sur quelque chose qu'on ne voit pas, sauf si précisément on va de soi-même dans ces frontières qu'on veut nous cacher aussi, qu'il ne faut pas photographier, puisque avec la figure de la fissure qui apparaît très graphiquement un moment sur un mur fissuré, et puis à la fin du livre sur cette banquise qui se disloque, c'est aussi la figure de la frontière telle qu'on ne la connaît plus en Europe, puisqu'on passe, la seule image de frontière qu'on ait, c'est les traces de frontières qu'il y a si on passe d'un pays à l'autre, ou l'ennui qu'on peut avoir à attendre à un aéroport, mais sachant qu'on a son entrée réservée aux citoyens européens, qui est quelque chose qu'il photographie aussi. Mais la frontière est très matérialisée par ces barbelés, parfois ces trois rangs de barbelés hérissés de lames tranchantes. Ils arrivent à figurer ce que c'est que cette frontière, comment est-ce que malgré tout elles sont traversées de manière incroyable. Et il y a donc quelque chose déjà de mélancolique dans la façon de traiter ces images, comme si on avait déjà perdu quelque chose qui est en train de se perdre. Et ça figure vraiment un moment très précis qui est de 2013 à 2015, et surtout l'année 2015, le moment où on n'a plus quelques réfugiés qui passent de temps en temps, mais des afflux. Ils ont une capacité à représenter ça parce qu'il y a un rythme dans la narration aussi, des moments où tout d'un coup, des moments où on attend parce qu'on n'arrive pas à avoir les autorisations, parce qu'on est sur le bateau à chercher si il y a si on va tomber sur une barque de réfugiés quelque part dans la Méditerranée, et des moments où tout s'accélère, qui sont des moments de tension à la frontière avec la Hongrie, quand tout d'un coup il faut sauver très rapidement un bateau avant qu'il ne coule, et ces moments de stase dont vous parliez, ces moments pleine page où on s'arrête, moments de mer, ou ce moment incroyable où ils sont à Lampedusa chez un homme qui a créé une sorte de musée où il a ramassé des objets trouvés sur la
plage, sur les lieux de naufrage, sur les ayant appartenu aux migrants.
On va trouver des hameçons, un vieux passeport nigérien, une bible complètement déchirée, un drapeau déchiré pareil, une vieille bouilloire cabossée, des brosses à dents, et là tout d'un coup on est pris par une émotion qui est intense, parce que sans arrêt on leur dit vous n'avez pas le droit, il faut pas les photographier, il faut pas ne prenez pas leur visage, n'allez pas chez eux, mais ils arrivent quand même à les attraper de manière très digne, très forte. Il y a ce regard incroyable d'un enfant sur un policier serbe, je crois, qui lui explique vous pouvez pas monter dans le train, c'est plein, mais on essayera. Et cet enfant a l'air, comme le souligne le commentaire, d'avoir déjà d'être déjà un vieillard, d'avoir tout compris, que c'est une lassitude, que ce n'est pas la peine d'y aller. Et la dernière photo à ce point-là est absolument incroyable. On est au nord du nord de la Finlande. Ouais. Ils ont vraiment exploré les frontières
du Maroc.
Les frontières de l'Europe, de ces enclaves espagnoles au Maroc jusqu'au nord, de la Finlande, et où on est parti dans une autre histoire, parce que entre-temps, il y a eu la guerre en Ukraine, la Crimée, la Lettonie persuadée qu'elle va se faire annexer par Moscou, les exercices de l'OTAN, et qui arrive une famille de réfugiés, enfin c'est deux réfugiés qui viennent les uns d'Afghanistan, l'autre de je ne sais plus quel pays, du Sénégal, et qui sont là et qui nous regardent. Et ce livre, qui pourrait être un reportage froid, photographique, très factuel, nous prend par l'émotion très souvent. Et ça, je pense que c'est à cause de cette construction qui s'inspire de la narration en bande dessinée, qui nous a amené vers là. Et même si ce n'est pas du roman photo, qu'il n'y a pas de personnage récurrent, ce genre de narration, on l'a déjà vu en dessin, avec notamment les bandes dessinées en tressé, reportage à la Philippe Squarzoni, par exemple, qui n'utilisait pas des personnages récurrents, mais qui mettait des images les unes à côté des autres avec un commentaire qui provoquait déjà une émotion et une information, et on obtient très exactement ça. Il y a un travail, notamment dans la découpe des images, dans le recadrage, dans la manière de prendre une même photo et de la découper en morceaux, et de créer une narration à l'intérieur même de la photo quand des personnages se déplacent, par exemple, qui est assez étonnante. Alors j'ai essayé de chercher s'il y avait un maquettiste derrière qui leur avait fait ça. Manifestement, ce sont vraiment eux deux qui doivent avoir une forte connaissance de la bande dessinée, je pense, pour avoir réussi à produire cette émotion-là par une narration et par la juxtaposition d'images.
Il faut avoir eu l'idée, tout simplement, de cette forme-là. Et donc, effectivement, ils doivent être très amateurs, en tout cas tous les deux, de ce genre. Mais c'est vrai que ça donne un livre, d'abord, moi j'ai appris énormément de choses, très concrètes, même si on lit les journaux, les quotidiens, et qu'on se tient informé de ce qui se passe un peu partout dans ce triste monde. Là, il y a quand même un regard très précis, d'une part, pas du tout... ils sont ni catastrophistes, ni angéliques, ni ils sont quand même au plus près d'une forme de réel. Moi, j'ai pensé à Fukuhama et le film de Gianfranco Rosi pour ce qui se passe à Lampedusa. C'est là, comme Gianfranco Rosi, il est resté là, il a posé sa caméra, il a vu des gens, il a essayé de nous transmettre du vécu très concret.
Ils ont la même impression que nous, d'ailleurs, quand on voit Fukuhama. Ils sont dans le même type de navire de guerre, occupés à faire des opérations de secours. Ils ont l'impression d'être dans un film de science-fiction. C'est exactement l'impression qu'on avait en regardant Fukuhama.
Et c'est exactement ça. Et donc, c'est du coup à la fois très fort informativement et très fort humainement, ce qui est quand même évidemment un peu paradoxal et très rarement a abouti.
Oui, parce que je crois qu'il privilégie vraiment l'histoire qu'ils ont racontée. Et pour le coup, j'ai l'impression que c'est un vrai travail de journaliste. Parce que par exemple, ce que disait Antoine tout à l'heure sur les regards, c'est vrai qu'ils captent les regards de manière très très forte, mais ils ne font pas du tout ce qu'aurait fait un mauvais livre de photoreportage, c'est-à-dire ils ne mettent jamais ces regards-là en gros plan, en premier plan, en se focalisant sur l'émotion. C'est pas du tout ça. C'est vraiment au lecteur de capter au détour d'une case, ou entre trois cases, ou en bas d'une page, le regard de quelqu'un, un regard triste, un regard fort. rapport ou un regard dans lequel une émotion passe. Mais c'est vraiment au lecteur de faire ce travail-là. Parce que tout, finalement, tout est dans la narration, dans l'histoire, dans le récit et dans cette recherche. Et on sent à chaque fois, à chaque nouveau chapitre, qu'ils y vont et qu'ils vont chercher ça. Et la dernière phrase du livre qui est « Nous avons entrepris ce voyage sans savoir au juste ce que nous trouverions en chemin. Nous rentrons à la maison avec la conviction que nous devons le raconter. » Cette phrase, pour moi, elle correspond à la fois à leur travail, mais aussi à ce qu'auraient pu vivre ces migrants qui se trouvent confrontés à une réalité qui n'est pas du tout celle à laquelle ils s'attendaient. Et effectivement, à un moment, il y a le besoin assez impératif de le raconter. Et c'est vraiment ce que ce livre dit.
Dernier mot, Antoine.
Une position de fragilité aussi du narrateur. C'est pour ça qu'on arrive à ce niveau d'émotion, c'est qu'il n'arrive pas en disant « on va vous expliquer ce qui se passe en Europe ». Ils sont à chaque fois à se demander « mais qu'est-ce qu'on fait là ?» Tout le monde d'ailleurs se pose un peu la question, et puis de se dire « effectivement, on va voir jusqu'où on peut aller, ça il faut qu'on le prenne en photo, il faut qu'on le raconte, mais sans jamais nous écraser.
» Ils ne se mettent jamais en scène. C'est très fort.
Ils dévoilent leur fragilité. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour dire « regardez comment on a été fort d'aller dans ces endroits incroyables ». Ils disent « c'est invraisemblable d'être là, puis en même temps, pendant ce temps-là, je ne vois pas mes enfants. » Ils sont très humains dans leur approche et donc ils nous permettent d'entrer avec eux dans cette histoire. Et ça, c'est une belle position, je trouve.
Ouais, bon, un livre tout à fait exceptionnel à tout point de vue, La Fissure de Guillaume Abril et Carlos Portino, qui paraît donc chez Gallimard. C'est une traduction de l'espagnol de Faustina Fiore.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
And now something completely different, aurait dit les Monty Python. Pour ce troisième temps de notre dispute bande dessinée, il fallait vraiment changer de registre. Ça tombe bien, avec ce volume 2 des Praticiens de l'Infernal de Pierre Lapolis. 5 ans, il me semble que ça fait plus longtemps que ça, mais j'ai lu 5 ans après le premier volume. Vous avez l'imprimer, Joseph. Vous allez vérifier ça.
2012 pour le premier.
Enfin, octobre, c'était paru en feuilleton longtemps. Alors, avant que le volume n'existe, on les connaissait depuis longtemps. Alors, de qui je parle? De Fongor Fonzim et des jumeaux très mutants Félicien et Christ Thémistècle. Alors, ne me demandez surtout pas de résumer leurs aventures.
Premier cortex synthétique, se programmant et agissant avec une autonomie totale. Un cerveau, monsieur Mokri, un cerveau artificiel. Une intelligence créatrice qu'aucun homme, qu'aucun ordinateur existant ne peut égaler. Il n'est pas conçu à partir d'éléments électroniques, mais organiques, comme notre cerveau.
C'est une masse gélatineuse énorme. Elle se déplace très vite et elle peut se glisser partout. Elle mange tout ce qui vit. Oui, tout ce qui vit.
Est-ce que vous allez me prendre pour un fou si je vous dis que le morceau d'étoile qu'on a trouvé contenait un truc dangereux? Une matière qui pourrait détruire toute la ville.
Et vos gueules, abruti! Je sais où trouver une vingtaine d'extincteurs.
Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie?
Quelle plaisanterie?
C'est vous qui avez mis ça sur mon lit?
Emmenez-le et enfermez-le.
Oui, chef.
Non, moi je ne joue plus avec vous. Je ne joue plus. Non, vous êtes de mauvais joueurs. J'ai bien voulu vous attacher tous, et moi personne ne veut m'attacher. Eh bien voilà, je m'en vais.
Hé, les gars, on est entourés de flics.
Non, on est tous flics, toi aussi.
Bien sûr. Oh, du raisin.
Ce sont mes camarades d'entraînement. Je leur ai donné des instructions pour qu'ils placent une charge de dynamite et qu'ils la fassent sauter aussitôt que je donnerai un signal par mon émetteur radio miniaturisé. Le résultat, vous l'avez vu.
Ceci est un dernier exposé de la situation, qui est le résumé de ce que vous savez déjà. Efforcez-vous d'y croire.
Voici le fabuleux trésor que mes ancêtres ont accumulé au cours des siècles passés.
Formidable! Ça, c'est un club sandwich!
Même quand votre client porte un pantalon trop large, vous devez l'imaginer portant des blue jeans serrés.
Oh, le cul!
Oh, c'est fou!
Ne regarde pas comme ça, sinon je te dis!
Ne vous en faites pas, Barbara, je suis là pour vous protéger.
Oui, chef!
Arrêtez de fouiner où je vous ai pris.
Pourquoi gâcher cette journée en tuant inutilement des innocents, finalement?
D'autre part, il peut arriver que l'odeur d'un client vous incommode. Faites alors brûler un peu d'encens.
T'as compris?
Oui, oui.
Steve, attention!
Nous avons essayé d'éliminer en faisant tomber un poteau électrique et en faisant un court-circuit.
Oui, d'accord.
Je ne suis pas sûr que ça marchera.
Oui, mais dépêchez-vous.
Mettez-vous à l'abri.
J'espère que le courant sera assez fort pour que cette chose soit détruite totalement.
Bon garçon, ton colonel a de graves ennuis. Et toi, tu fais prendre l'air aux bijoux de famille.
Oh, pardon, mon colonel.
Vous imaginez que vous allez travailler sur un bel Apollon.
Non, je... C'est-à-dire que... Excuse-moi. Et il doit y avoir équivoque, je crois.
Tu vas quitter cette chaise.
Vous ne pouvez pas encore partir. Ils n'ont toujours pas trouvé la raison pour laquelle vous ne cicatrisez pas.
Qui mieux que Pierre Lapolice et Radio Mentale pour introduire cette dispute autour des praticiens de l'infernal. Le volume 2 est enfin arrivé. J'ai dit ne pas me demander de résumer l'histoire. Alors, on a parlé de la fissure, il faut du temps long. Les praticiens de l'infernal, c'est un livre qui peut être du temps extrêmement court puisqu'on peut le lire en quelques minutes, mais alors on peut y revenir extrêmement longuement aussi, Joseph Gosse. Moi, j'ai tellement client de Pierre Lapolice, c'est une de mes idoles.
C'est aussi une des miennes, et c'est un génie, je crois, pas moins. Comme vous le disiez, on connaît ces personnages depuis quelques années déjà, une vingtaine d'années, je crois, puisqu'ils étaient, on les voyait déjà dans des strips, dans les Inrecuptibles. À l'époque, dans les années 90, et Pierre Lapolice les a repris, donc il y a un peu plus de 5 ans, pour une bande dessinée qu'il faisait pour iPad au départ, et qui ensuite a été édité sous la forme du premier volume des Praticiens de l'Infernal. Alors pour ce volume 2, très étrangement, je n'ai pas senti le besoin d'aller revoir le volume 1, parce que au fond, je me trompe peut-être. Je n'en suis pas certain. Je crois que le livre se lit effectivement tout seul. Et ce qui
qu'on nous représente les personnages, hein, il fait ça bien.
Il fait ça très très bien. Il les représente très bien.
Il nous les représente.
Il nous représente. Oui, à chaque mais à chaque fois.
Ah, mais voilà, Fongoir.
Quasiment à chaque page. Il faut peut-être décrire ouais. à quoi ressemble le livre, puisque les pages sont construites de manière assez systématique. Une case, une grande case avec un commentaire.
La première case,
une couleur de fond grise, des traits hachurés, et un commentaire après une forte pluie. Ouais. Voilà. Ce qui peut être l'introduction d'à peu près tout et n'importe quoi.
Ouais.
Et notamment,
ce sera le cas d'ailleurs.
Voilà, c'est le cas.
Tout et n'importe quoi.
C'est le cas. Et à partir de là, on voit évoluer des personnages.
Parce que la deuxième case,
les raisins poitreux se forment dans les arbres. Troisième case, les curieux finissent par en manger. Et effectivement, on voit des curieux qui en mangent.
Ouais.
Et ensuite, le soir, on retrouve leur corps tracté et privé de tête.
Voilà.
C'est à peu près l'intrigue. C'est-à-dire que les gens mangent des raisins.
Poitreux.
Et le soir, on les retrouve
sans tête et tracté
par terre. Voilà. Et à partir de là, tout peut arriver, tout peut se dérouler. Et ce que je trouve extrêmement fort, c'est que Pierre Lapolice reprend ce vieux principe du céréal. Du feuilleton, du strip, etc., qui consiste à faire rebondir en permanence les histoires pour que les personnages évoluent, qu'ils passent d'une intrigue à l'autre, etc. C'est pour garder le suspense. Mais là, il le fait quasiment d'une page sur l'autre, où l'histoire, au bout d'un moment, effectivement, il n'y en a pas, on est perdu. De temps en temps, pour être sympathique, il remet cette histoire de tête coupée. Et au fond, on est totalement happé par cette histoire à laquelle on ne comprend rien, mais en même temps, c'est très très fort dans la narration, dans ce que ça raconte de la bande dessinée. D'ailleurs, sur ses possibilités même, passer d'une case à l'autre, jouer avec l'imagination du lecteur, que se passe-t-il entre cette page et l'autre, pourquoi d'un coup un personnage n'a plus tête, pourquoi est-ce qu'elle repousse. Ça, c'est possible parce que justement c'est de la bande dessinée, parce que c'est du dessin aussi. Et Pierre Lapolice est aussi très très fort dans les couleurs. Ça, ce que je trouve remarquable chez lui, ce sont ces couleurs qu'il arrive à rendre très happantes, très pop, enfin puisque c'est aussi un travail sur ça, très pop, mais aussi en même temps un peu dégueulasse, un peu flétri, comme les personnages d'ailleurs. Ces personnages-là sont des personnages un peu monstrueux, un peu grotesques. Leur peau tombe, les têtes sont coupées, mais elles repoussent. Donc on est vraiment dans un exercice qui tient à la fois de la caricature, mais aussi de la singularité totale, puisque absolument rien ne peut ressembler à Pierre Lapolice. Et c'est ça, je crois, qui fait aussi sa force. Moi, j'ai eu des conversations avec des auteurs américains, je pense notamment à Charles Burns, qui pour lesquels Pierre Lapolis est vraiment un modèle dans justement dans sa singularité, dans ce qu'il représente et quasiment dans l'îlot qu'il est. On citait tout à l'heure la possibilité d'une île, et là c'est vraiment la possibilité d'une bande dessinée tout à fait différente et très singulière.
Antoine Guillot sur Pierre Lapolis.
Il faut préciser et rappeler que Pierre Lapolis est un homme tout à fait mystérieux.
Ah oui, tout à fait. Qui ne
veut pas être pris en photo. Qui avance masqué. Personne ne sait qui c'est, si c'est un homme, une femme, quel âge il a, etc. Alors il s'inscrit quand même dans une histoire qui est celle du dessin légendé. On pense à Glenn Baxter sur l'utilisation d'une image qui se suffit presque à elle-même, qui pourrait s'afficher comme ça. Alors, et surtout une qualité d'écriture que je trouve admirable. Par exemple, Chris suit un stage d'entraînement pour apprendre à fabriquer un Vénézuélien. Voilà, et on voit effectivement Chris devant quelque chose qui est en train de se fabriquer, qui doit être un Vénézuélien. Un moment où il n'a plus de tête, mais il faut quand même lui en mettre une. Alors, avec un gant de toilette rempli de purée et deux balles de ping-pong. Mais l'image en elle-même est suffisamment mystérieuse. On pourrait la prendre comme ça pour nous entraîner ailleurs. Je vous en cite une très belle, par exemple, qui effectivement est une image de bande dessinée. Ou en tout cas, qui est une réflexion sur le dessin. On voit l'homme dont la tête repousse. Il a les cheveux un peu mal peignés, donc entre ses boucles de cheveux, on voit le ciel derrière, et le commentaire en dessous, c'est « il a du ciel dans les cheveux », qui est d'une poésie et qui est d'une poésie magnifique. Alors ce qui est très beau, c'est la combinaison de ces pages qui peut se recombiner. Il y a eu au Festival d'Aix une expérience menée par Pierre Lapolis. Il a repris le volume 1 des Praticiens infernales et le volume 2. Il a recombiné les cases pour raconter une toute autre histoire. Et ça marche. Alors achetez plusieurs livres, déchirez-les, faites l'expérience vous-même. Donc on est dans quelque chose qui a une potentialité énorme, où on peut se perdre dans ces images qui convoque toute une culture pop, comme on l'entend ici. Ce sont les films de monstres des années 50, et surtout le principe du jeu. On l'entendait aussi tout à l'heure, quelqu'un disant « je ne joue plus », etc. Et on a ce sentiment d'un enfant qui joue avec ses personnages et qui va dire « tiens, là on ferait ça, et puis on rencontrerait des gens qui auraient des têtes d'éléphants, et puis en fait, ce ne seraient pas les vrais, ils seraient fabriqués en pâte à tarte, etc. » Et on a quelque chose qui va à la fois dans la direction de l'enfance et de la pataphysique
De l'absurde totale.
Donc c'est un bonheur.
Ce qui est hilarant chez Glenn Baxter, c'est le décalage entre le texte et l'image. Et ce qui est hilarant chez Pierre Lapolis, c'est l'absolue pertinence du texte par rapport à l'image, mais dans son absurdité même. Et donc, ça, c'est un grand art.
Et c'est pertinent aussi par rapport à l'histoire même de la bande dessinée, de ce qu'il raconte. Il y a par exemple ce moment où on a l'impression qu'un de ces personnages va utiliser un super pouvoir. Et sauf que son super pouvoir consiste à quoi ? Il consiste à incliner légèrement son talon, qui fait qu'il se présente sous un angle inhabituel. Ouais. Et du coup, on a l'impression qu'il est plus grand.
C'est l'invention de la contre-plongée.
Exactement.
C'est Orson Welles.
Voilà.
Et ben voilà, tout est dit. Les praticiens de l'infernal, indispensable. Le volume 2 vient de paraître chez Cornelius. Il est bien sûr signé Pierre Lapolis. Et avant de conclure, un vrai jeu, le jeu de la dispute. Un rappel d'abord avec Justine Dibling de la question du jeu d'hier soir ainsi que sa réponse du coup.
Dans son film Ta-Hang, Wang Bing accompagne cette ethnie éponyme à fuir les conflits armés incessants à la frontière sino-birmane. Depuis quand la Birmanie est-elle en guerre ? Depuis 1948, date de l'indépendance.
Ouais, on fait gagner ce soir des DVD du film Le Mystère Jérôme Bauche, l'ancêtre de Pierre Lapolis. C'est un film de José Luis López Leñares, distribué par Epicentre. La question, Justine ?
Sur quelle pochette d'album d'un groupe de rock britannique mythique peut-on voir L'Enfer, extrait du Jardin des Délices de Jérôme Bauche ? Mieux comme ça.
Réjaume, mais pourquoi pas. Ouais. Votre réponse, c'est que vos coordonnées postales, les bonnes, hein, sont envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur notre émission à retrouver sur le site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Rendez-vous lundi soir à 21h pour une dispute consacrée à la danse. On sera en compagnie de Florian Guettet, Philippe Noisette, notre affiche d'exposition Different Way to Move. Minimalisme, New York, 1960-1980, c'est au Carré d'Art, musée d'art contemporain de Nîmes. Parlerons également de Box Box de Mourad Merzouki, en ce moment au théâtre du Rond-Point. Nous évoquerons plus rapidement Monument en mouvement numéro 3 des femme au Panthéon solo sous la direction de Nassera Benaza. Et puis nous parlerons des rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Enfin, Boris Pinault passera un coup de fil à Gilbert Fillinger, directeur de la Maison de la Culture d'Amiens. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture à 22h15. Les discussions du soir dans quelques instants, le journal de la rédaction.